Avec Dominique Ziegler. Bonjour Dominique.
Bonjour.
La dernière fois qu'on s'était vu, c'était Hercule Poirot qui enquêtait Halloween, et puis vous nous aviez annoncé en fin d'entretien qu'on allait se retrouver pour Choc, la friandise des dieux, qui avait déjà été montée, c'est une reprise, au Théâtre du Guti, où on se trouve, du 6 au 18 mai cette année. Vous nous en parlez, vous êtes en plein préparatif. Il me semble que la première version, ça avait été d'abord bilingue, et cette fois-ci, ça sera en français, au Théâtre du Guti.
Voilà, alors à l'origine, c'est une commande qui m'a été faite par le Théâtre Orchestre Bienne Seller, qui, comme son nom l'indique, est une institution bicéphale entre Bienne et Seller. Et c'est une dame qui s'appelle Katharina Rupp, qui était la directrice du théâtre, qui était allée voir un musée du chocolat, le musée Lind, pour ne pas le nommer. Et elle en était ressortie tout à fait horrifiée parce que ce musée présente une histoire complètement lacunaire de l'histoire du chocolat. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. Hein. À peu près tous les musées, comme c'est hagiographique, liés à des grandes marques industrielles, ont tendance à faire l'impasse sur le côté obscur du chocolat. Alors, on parlait d'Hercule Poirot. Bah, moi, je fais un peu pareil. Je fais l'enquête sur le côté obscur du chocolat. Et j'aime chercher dans les racines occultées de cette matière première qu'est le cacao, qui nous raconte finalement des choses sur notre histoire occultée à nous, êtres humains.
Dominique, vous avez enquêté justement en allant déjà voir cette exposition, comme vous dites, lacunaire, où tout le pan de ce qui concerne l'esclavagisme, l'exploitation des personnes dans les lieux d'origine du cacao, bon, il y a l'Amérique latine, l'Afrique, était totalement occulté, sciemment ou peut-être par habitude. Alors, ça peut concerner aussi le sucre de canne, ça peut concerner le café, beaucoup de matières premières. Le cacao, ça remonte très loin. Et en même temps, on oublie que la Suisse a contribué aussi à participer de manière active au commerce triangulaire.
Alors le paradoxe des paradoxes, c'est que le chocolat est l'emblème de la Suisse, hein, alors des produits nationaux suprêmes de ce pays, un symbole, et puis on n'a pas un seul cacaoyer qui pousse sur notre territoire, donc il y a quand même un paradoxe. Et effectivement, il faut faire de l'histoire, il faut chercher les racines lointaines de toute cette affaire. Alors c'est une violence qui est très démocratiquement partagée, parce que tous les pays européens en fait ont contribué à l'exploitation des Noirs via les matières premières que vous avez décrites. Effectivement, on a fait cette pièce sur le cacao pour les raisons que je viens de dire, qui est l'aspect symbolique concernant la Suisse, mais effectivement, on aurait pu faire la pièce sur le café, le sucre, etc.
Le thé, etc.
Et donc, en ce qui concerne le cacao et l'implication des Suisses dans l'esclavage, c'est deux choses à distinguer. Les Suisses, comme toutes les autres classes dominantes d'Occident, j'aime mieux parler de classes dominantes que de structure étatique, parce que ça a changé au fil du temps. La Suisse du 16e siècle, c'est pas la même que la Suisse actuelle. Et puis c'était pas toujours des États qui étaient impliqués, même si par exemple l'État de Berne avait des billes dans la South Sea Company, qui était une grande compagnie esclavagiste, elle était même l'actionnaire majoritaire, le plus gros actionnaire, pardon, pas l'actionnaire majoritaire. Donc c'était... Il y a des structures étatiques qui avaient les mains plongées dans le sang de l'esclavage, mais c'est surtout des aventures privées de grandes familles, un peu aventurières comme ça. Donc elles ont pratiqué l'esclavage, notamment dans les Caraïbes ou sur le continent latino-américain, mais aussi indépendamment du cacao. Et toute ma recherche, elle était justement de faire corréler l'implication des Suisses dans l'esclavage, le cacao et la traite transatlantique. Donc c'était un peu compliqué parce que là aussi, il y a peu de matière littéraire. Et puis c'est pour ça que j'ai débordé du cadre de la Suisse, parce que ça aurait été une injustice aussi historique de ne parler que de la Suisse, qui représentait environ 1,5% de toute la traite transatlantique. Donc c'est à la fois terrible et à la fois léger, entre guillemets, comme pourcentage, mais si on le traduit en termes de vie humaine gâchée par la traite transatlantique, oui, des Suisses, comme la famille de Puri, la plus célèbre de Neuchâtel, ou les du Pérou, ou d'autres encore qui sont cités dans le spectacle, ont participé à la traite transatlantique. Donc la pièce, c'est une grande fresque qui raconte, à travers la matière première du cacao, justement, toute cette histoire inhumaine qui est encore à l'origine des rapports entre le Nord et le Sud.
Alors Dominique, je rebondis sur deux choses que vous avez dites. Dupuri, la famille, on sait, peut-être pour ceux qui ne connaissaient pas encore, que sa statue a été déboulonnée quand il y a eu toute la cancel culture. Justement, c'est mieux de l'éviter, la cancel culture, et de faire des enquêtes comme vous le faites, à travers les siècles et à travers aussi les lieux. Donc on comprend que vous avez eu plusieurs lunettes de lecture, que ce soit géographique, historique, politique et bien sûr sociologique. Et vous avez mêlé toutes ces lunettes pour pouvoir aboutir au travail que vous avez écrit.
Alors, juste pour revenir sur l'histoire de Depuri, la statue, elle n'a pas été déboulonnée, en fait. Ils ont fait un compromis très helvétique. Ils ont laissé la statue.
Neutralité.
Ouais, et ils ont mis une petite statue à l'envers. C'est une espèce d'intervention d'un artiste contemporain qui a cru bien faire en disant que via la statue retournée symboliquement, on le déboulonnait, mais sans le déboulonner. Enfin, il y a un truc un peu bâtard, à mon avis. Moi, j'aurais pas été opposé à ce qu'on la mette au musée, parce que ce qui s'est passé dans le même temps qu'il y avait tous ces débats, en fait, c'est que le musée de Neuchâtel a vraiment fait tout un pan de son bâtiment sur ces questions. Donc ils auraient très bien pu déplacer la statue-là. Il ne s'agit pas de la faire disparaître, il s'agit peut-être juste de ne pas la mettre bêtement dans l'espace public, mais au contraire, lui, essayer justement d'utiliser son statut, sa présence pour raconter des choses. Bref, bon. Alors, par rapport aux différents aspects de la recherche, oui, en fait, c'est très autodidacte, hein, comme manière de procéder. C'est-à-dire, on me passe une commande sur l'économie du cacao, dont je sais très peu de choses, et à partir de là, je dois lire des livres d'histoire, des livres d'économie, des livres de géographie, rencontrer des gens qui connaissent ces sujets. Il y a pas mal d'universitaires en Suisse qui ont traité justement de la traite des gruyères par les familles suisses. Mais il n'y a pas énormément finalement de gens qui s'y sont penchés. Il n'y a que deux livres qui font foi, enfin à ma connaissance. Hein. Il y a la Suisse esclavagiste de Hans Fessler et la Suisse et l'esclavage des Noirs de Thomas David et de deux autres co-auteurs et co-autrices dont le nom m'échappe. Et puis j'ai découvert après plus tard Olivier Pavillon qui a aussi écrit plus spécifiquement sur quelques familles suisses. Il a concentré sur une ou deux familles emblématiques. Donc après, je suis allé aussi voir l'économie actuelle du cacao, parce que toute l'idée, c'était non seulement de faire une pièce historique, mais aussi une pièce politique, c'est-à-dire qui parle d'aujourd'hui. Et pour ça, je suis allé voir les gens de Public Eye. Avant, ça s'appelait la déclaration de Berne. Et eux, ils ont tout un travail de recherche vraiment très très pointu sur les conditions dans lesquelles est cultivé actuellement le cacao, et notamment ce qu'on sait, ce qui est ressorti, le travail des enfants en Côte d'Ivoire, et des enfants qui viennent du Mali, du Burkina, qui vivent dans des conditions inhumaines. Et de ce travail-là, on fait le chocolat industriel qu'on mange aujourd'hui. Et il est dit, via certaines enquêtes, que si on augmentait la tablette de 50 centimes, par exemple, et que si ces 50 centimes étaient reversés aux petits producteurs qui sont à l'origine de la récolte du cacao, eh bien, ces gens vivraient 10 fois mieux. Mais on refuse de le faire parce que, les multinationales du cacao refusent de le faire, parce que du coup, elles ne seraient plus concurrentielles, etc., etc. Donc, vous voyez à quel point cette absurdité est immense et à quel point elle raconte malheureusement l'état du monde d'aujourd'hui.
Dominique, vous connaissez bien l'Afrique, vous parlez justement des petits producteurs qui pourraient vivre dans de meilleures conditions grâce ne serait-ce qu'à 50 centimes sur notre tablette, qui est déjà peu onéreuse pour le niveau suisse. Mais en même temps, les petits producteurs, est-ce qu'ils auraient l'idée, l'éthique d'arrêter de solliciter des enfants pour travailler? Les enfants, ils travaillent partout en Afrique, que ce soit les métaux précieux, que ce soit maintenant les métaux qu'on utilise dans nos portables. Donc le cacao, c'est presque banal de dire qu'un enfant travaille.
Alors ce qu'on raconte dans la pièce, justement, c'est que la misère engendre la misère. Et la pauvreté, elle peut engendrer la beauté. J'en suis témoin parce que je reviens du Mali, j'ai vu que des gens pauvres, extrêmement chaleureux, extrêmement solidaires. Mais parfois aussi, évidemment, elle engendre aussi le sommeil de la raison. Ce qui fait que des gens qui sont vraiment dans la merde, ils vont en exploiter d'autres pour être sensiblement moins dans la merde. Voilà, je suis un peu trivial, mais c'est la réalité. Et donc là, dans la pièce, on montre vraiment des paysans qui sont à bout, qui vont vendre leur terrain à des escrocs qui sont eux-mêmes des gens qui ne roulent pas sur l'or et qui vont utiliser une main-d'œuvre très très bon marché, pour ne pas dire gratuite, via des promesses à des pauvres femmes paysannes au Sahel dont les gosses crèvent de faim. Donc ils leur disent venez en Côte d'Ivoire, on va s'occuper de vos gosses, on va t'éduquer. Et puis finalement ils se retrouvent esclaves dans les champs de cacao, dans les cacaoyères. Et puis donc ça on le raconte, mais et on peut pas, c'est très difficile de dire aux Africaines et aux Africains faites ceci, faites cela, alors qu'on a le siège de Nestlé Rutilant à Vevey, qui est en fait la pointe de l'iceberg et qui est responsable en grande partie de tout ça. C'est-à-dire que c'est ici qu'il faut changer les choses et elles changeront là-bas. Alors après, il faut distinguer deux choses, c'est vrai, les gens nous disent souvent ça. Il y a la solidarité familiale africaine où souvent les jeunes enfants aident à la récolte. Ça, c'est aussi une réalité qui n'est pas toujours misérabiliste, on va dire. Mais il faut la distinguer de l'exploitation qui est une réalité, et on estime à 2 millions le nombre d'enfants exploités sur ces champs de cacao, donc c'est quand même une réalité concrète. Et puis il y a eu aussi ce qu'on appelle une class action, il y a eu des procès qui ont été faits par d'anciens enfants qui avaient été exploités sur les exploitations de cacao, qui ont réussi tardivement, en grandissant, à s'en sortir, qui ont sollicité des ONG. Ces ONG ont réussi à faire un procès contre Nestlé et Cargill. Donc Cargill, c'est vraiment la grosse multinationale de la matière première du cacao. Et puis ils ont réussi à amener ça à la cour de New York, et via des ONG, ils ont été déboutés. Ils ont été déboutés, mais pas du tout pour des questions de fond, mais pour des questions de forme. C'est-à-dire qu'en fait, les sièges sociaux n'étant pas sur place, pourquoi, ou le lieu de l'exploitation n'étant pas aux États-Unis, pourquoi est-ce que finalement il y aurait un procès là-bas? Donc ce n'est pas le fond qui a été retoqué, mais la forme. Ça en dit quand même assez long sur finalement la réalité du scandale.
Et puis à propos de scandale, c'est quand même une matière première maintenant qui est cotée en bourse, alors qu'au départ c'était la boisson des dieux chez les Aztèques. Donc il y a vraiment une dimension planétaire. Et on occulte que pour pouvoir savourer un carré de chocolat, il y a toute cette souffrance au début de la chaîne. C'est ce que vous montrez dans votre spectacle.
Alors dans le spectacle, on revient justement sur l'origine mystique du chocolat. À l'origine, c'est la boisson des prêtres aztèques, des aristocrates aztèques. C'est vraiment une boisson spirituelle. Elle n'avait pas du tout la même texture.
Amère,
dans ce cas, elle était beaucoup plus forte que ce qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup plus âpre. Et sans doute, elle donnait des hallucinations, elle donnait de l'euphorie. Elle avait un petit côté comme ça, stupéfiant, qui permettait aussi des visions chamaniques. Enfin, il y a toute une cosmogonie qu'on ignore en grande partie autour du cacao. Et donc, quand Cortés arrive, Montezuma lui offre du cacao en guise de bienvenue, parce qu'il le prend d'abord pour le dieu Quetzalcoatl. Et puis, Cortés... La Malinche qui trahit son peuple, parce qu'elle-même, elle vient d'un peuple qui a été exploité par Montezuma et les Aztèques.
Donc, elle a été bilingue.
Ouais, elle se venge. Elle profite évidemment de l'opportunité de la présence de Cortés. Mm-hmm. Mais Cortés réagit très mal au cacao. C'est amer. Et puis du coup, il recrache. Ça, c'est une scène qu'on montre.
Mm-hmm. Non, c'est bon, Dominique. Je vais travailler.
Voilà, alors je ramasse la feuille de la journaliste qui est tombée par terre.
Voilà, alors, y a des esclaves même chez les metteurs en scène.
Voilà, mais souvent d'ailleurs. et puis qu'est-ce que je disais? Ouais, donc là, voilà, il n'a pas tout de suite.
Malinche l'a trahi.
Malinche, on ne l'a pas mis dans la pièce. Mais Cortés n'a pas compris tout de suite l'importance du cacao. Et puis quand on lui a expliqué la symbolique, l'importance que ça avait chez les Aztèques, tout à coup, il a fait un peu machine arrière. Et puis il a fait le type qui aime bien le cacao. Et surtout, il a commencé à l'exporter à la cour du roi Charles Quint, en se disant que ce qui était bon pour les aristocrates aztèques pouvait l'être aussi pour les aristocrates espagnols. Et ça, c'est vraiment l'export en Europe. Hein. C'est la première fois que le cacao arrive sous forme de chocolat froid, liquide. Et puis, petit à petit, les moines raffinent la recette, hein, rajoutent du sucre, des choses, de la vanille. Alors, le lait, ce sera le grand apport helvète. Ne brûlons pas les étapes. Ne brûlons pas les étapes. Voilà. L'idée, c'est que la friandise des dieux, hein, la friandise des dieux aztèques, ça devient symboliquement la friandise des dieux blancs, nous, les blancs occidentaux, qui mangeons ce cacao, ce chocolat, fait dans des conditions aujourd'hui indignes. Et ce qui symbolise plus que tout ce scandale, c'est le fait que les enfants cultivateurs de cacao en Côte d'Ivoire, ou au Ghana, ont rarement vu une barre de chocolat terminée. Ils n'ont jamais mangé de chocolat. Donc c'est pour ça qu'il y a un double sens dans le titre de la pièce. La friandise des dieux, un choc aussi. Voilà, tout est à double sens. Choc, la friandise des dieux, les dieux antiques, mais les dieux actuels, ceux qui sont au sommet de l'Olympe social, c'est nous.
Choc, à la fois le petit nom du chocolat, puis aussi le choc de découvrir toute cette réalité ou de la redécouvrir. Vous mentionnez justement les conditions indignes. Donc là, vous questionnez l'éthique tout au long du spectacle.
Oui, c'est un spectacle justement qui ne cesse de questionner l'éthique, puisqu'on montre d'abord le massacre des Aztèques, ensuite le fait que les Aztèques, et puis plus largement tous les Indiens d'Amérique aient été décimés. On montre les Blancs en train d'imaginer trouver une autre main-d'œuvre servile, c'est-à-dire intensifier la traite transatlantique pour amener les Noirs d'Afrique sur le continent sud-américain d'abord, puis nord-américain. Donc là aussi, il y a un scandale inouï, un scandale historique qu'on remet en valeur, et c'est là où on met par exemple une scène avec Louis XIV et Colbert qui édicte le Code Noir, où on montre l'implication des Pays-Bas, l'implication de l'Angleterre et évidemment l'implication aussi des Suisses. Parce que les Suisses, encore une fois, ont fait partie de cette entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment tout le volet éthique qu'on voulait raconter. Et pourquoi on voulait raconter ça? Parce qu'aujourd'hui, le racisme perdure. Et ce racisme a une racine. Il a une racine économique. On montre une scène fictive, évidemment, hein, qui est de la synthèse de documentation, où on montre Charles Quint dire à un curé comment on va faire pour mettre en esclavage les Noirs alors que... finalement, la chrétienté, très tardivement, a donné une âme aux Indiens qui se convertissaient. On est ennuyé de faire ça. Et puis, il trouve un subterfuge dans l'Ancien Testament, parce que un des fils de Noé, du nom de Cham, aurait vu Noé danser ivre mort, nu, dans ses vignes, et Noé l'aurait vu et l'aurait maudit. Voilà. Et comme Noé est le copain de Dieu, la malédiction de Noé vaut pour malédiction de Dieu. Et donc Cham serait peut-être noir, ce qui expliquerait que les Noirs sont maudits par Dieu, donc qui n'ont pas d'âme, donc on peut les exploiter. C'est très tarabiscoté comme raisonnement, mais c'est plus ou moins par ce biais-là que l'Occident chrétien se dit, tiens, enfin c'est des subterfuges évidemment, mais donne ça comme prétexte pour mettre en esclavage les Noirs. Donc on raconte cette chose totalement absurde, délirante et ignoble, mais dont les ramifications s'étendent encore aujourd'hui. Le racisme anti-noir, il est structurel, il existe, il perdure ne serait-ce que dans les échanges nord-sud dont je viens de parler, mais aussi dans la vie quotidienne ici, les afro-descendants en savent quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment tenu, enfin j'ai tenu à faire cette pièce en collaboration aussi avec non seulement des chercheurs afro-descendants, mais aussi avec les comédiennes et comédiens afro-africaines et africains ou afro-descendants qui sont dans la distribution du spectacle. C'est pas juste des interprètes, c'est une troupe qui est partie prenante de la thématique, qui a corrigé des éléments du spectacle, qui a impliqué à tous les échelons. C'est vraiment un travail de troupe que vous allez voir au Grutli du 6 au 18 mai.
Qui apporte une véracité de par leur histoire.
D'autant plus que certains ont travaillé sur les exploitations de cacao en Côte d'Ivoire. Donc on sait vraiment de quoi on parle quand on fait ce spectacle.
Dominique, vous avez mentionné l'Église qui avait un discours tarabiscoté pour faire passer une horreur, une ignominie. C'est aussi le cas par rapport au statut des femmes. Donc on sait que l'Église a souvent eu de grandes théories qui ont été comme ça disséminées avec la colonisation. Pour l'exploitation du cacao comme des autres matières premières, c'était plus facile pour avoir la main mise sur ces pays.
Bon, c'est toute l'histoire de l'esclavagisme et du colonialisme. Il s'est accompagné de prétextes. Il y a d'abord ce que vous dites, hein, les prétextes d'aller sauver l'âme des pauvres sans âme qu'étaient les Indiens, et puis d'utiliser la force de travail d'êtres humains dont on nie l'humanité parce qu'ils n'auraient pas d'âme, et puis tout ça pour faire grandir l'Occident. Hein, tout ça a impulsé notre développement, il ne faut pas oublier ça. Et puis, petit à petit, ces prétextes s'étiolant avec les lumières qui arrivent, etc., il a fallu trouver d'autres prétextes. Et c'est pour ça que nous, on fait vraiment une fresque qui s'étend jusqu'au 21e siècle, avec un passage dans le 20e siècle où on voit Jules Ferry, hein, le père du républicanisme de façade, dire cette phrase historique, hein, « Les peuples développés ont le devoir d'instruire les peuples sous-développés. » Et ils ont... Alors il le dit en filigrane, hein, ils ont le droit de les coloniser, puisque c'est pour leur bien. Et donc on a ce qu'on appelle le colonialisme républicain qui arrive, et on prend l'exemple, justement, parce qu'on est toujours lié à l'affaire du cacao, de la Côte d'Ivoire, et du colonialisme d'abord basique de l'occupation blanche qui va dans les villages de Côte d'Ivoire, et puis qui fait travailler les gens, qui les sort de leur vie quotidienne, ils sont peinards chez eux, et tout d'un coup il y a des blancs qui débarquent, qui les foutent sur les exploitations, mais pas seulement de cacao, hein, qui sur les exploitations de chemin de fer, etc. C'est de l'esclavage moderne, en quelque sorte.
Et qui les emmène à l'île de Gorée aussi ?
Gorée, ça c'était avant. Ça c'est avant. Mais là dans le 20e siècle, c'est vraiment là, on s'est concentré sur l'affaire ivoirienne. Et puis, par le jeu des indépendances, par justement le travail de résistance des Africaines et Africains, ben ça on le montre tout le temps aussi. On montre l'exploitation, mais on montre toujours les révoltes d'Haïti, les Noirs qui ne se laissent pas faire, parce qu'il y a encore un autre subterfuge que les Blancs utilisent, c'est de dire à nous on est tellement sympa qu'à un moment on a compris que c'était pas bien et puis qu'on a été, on a fait l'abolitionnisme. Mais l'abolitionnisme, il est venu surtout parce que les Noirs se sont révoltés et que l'entreprise ne s'est pas faite de manière aussi facile.
Parce qu'il y a eu des Sankara ou des Lumumba.
Ouais, et puis avant ça, il y a eu des Toussaint l'ouverture. On a une très belle scène dont je suis très content, de trance, carrément sur scène, avec Yaya Mbile, notre actrice principale, qui joue Cécile Mambo Fatiman, avec Douti Boukman. C'est des révoltés sur les plantations en Haïti. Ils rentrent en trance, ils prennent la force et ils vont aller tuer les planteurs blancs. Et voilà. Et après, justement, ça fait peur au roi du Portugal, ça fait peur à tous les monarques, et commencent à stresser et à imaginer d'autres astuces. Et une de ces astuces, justement, c'est d'aller planter le cacao en Afrique et de commencer le colonialisme, non plus de faire venir les Noirs africains en esclavagisme en Amérique, mais au contraire d'amener la matière première et de les mettre sous une forme d'esclavagisme moderne sur place. Et donc j'arrive je suis passé à Jules Ferry, justement, qui va un peu saupoudrer tout ça de républicanisme bontain. On va les aider, on va leur apporter les lumières, et ça reste. Ça vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans les discours même de gauche. Il n'y a qu'à voir le Parti Socialiste Français qui est un ramassis de post-Jules Ferristes plus républicains.
Il existe encore
par exemple François Hollande, qui est l'incarnation la plus médiocre du socialisme, faux socialisme à l'occidental, il se réfère beaucoup à Jules Ferry. Manuel Valls, tous ces mecs, c'est vraiment des ersatz palos de Jules Ferry, mais ça imprègne. Là, on a tout plein de gens qui se réclament de la gauche républicaine, qui sont juste des racistes bontins, qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les Noirs. Enfin, bref, tout ça, je veux dire, imprime les rapports sociaux encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des polarisations très fortes avec ce qu'on appelle les mouvements décoloniaux, qu'il y a des réveils de part et d'autre, et qu'il y a aussi un backlash très fort, hein, on le voit. Voilà, alors je finis. Donc de Jules Ferry, on arrive à l'indépendance, et là, les indépendances, justement, j'ai fait ma première pièce là-dessus, Ndongo revient, était vraiment une épine dans le pied de l'Occident, notamment de la France, qui voyait son précaré d'Afrique de l'Ouest lui échapper. Donc qu'est-ce que le général de Gaulle, via son éminence grise Jacques Foccart, a imaginé? C'est d'utiliser des leaders noirs, souvent indépendantistes, ou bien de supprimer ceux qui ne pouvaient pas utiliser et d'en mettre d'autres, et de créer des fausses indépendances, et de que le système perdure par le biais de dictateurs fantoches, en fait.
La France-Afrique.
C'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Et du coup, on s'est concentré sur Oufouette Boigny, parce que Oufouette, non seulement c'était le plus emblématique, le plus roué, le plus rusé de tous, lui-même avait d'abord été un résistant au néocolonialisme, hein, et puis il a été vraiment travaillé au corps, notamment par François Mitterrand. On parlait de socialiste julfériste, on peut mettre vraiment le socialisme, entre guillemets, dans cette affaire-là, et on a des scènes tordantes, parce qu'il ne faut pas oublier, tout ce que je raconte est tout à fait sordide et terrible, mais la manière dont on le fait, pas toujours, hein, quand on parle d'esclavage, on ne déconne pas, on essaie de le montrer dans sa manière la plus crue, mais dans ce genre de manipulation politique de Mitterrand qui approche Oufouette Boigny, on se permet de déconner un peu. On a un magnifique acteur qui s'appelle Emmanuel Dabous, qui avait joué Rousseau pour moi, qui avait joué d'autres rôles dans d'autres pièces, qui fait un Mitterrand vraiment froid, cynique, con, et voilà, donc ça, on le montre aussi. Et puis la Côte d'Ivoire va devenir le premier producteur de cacao mondial, mais évidemment tout le pognon va aller en partie essentiellement dans la poche des Français et en deuxième temps dans la poche de Oufouette Boigny, qui avait par ailleurs une très belle villa à Coligny, donc une bonne partie est venue en Suisse. Voilà, de tout ça, on fait du théâtre. Avec tout ça, on fait une grande fresque théâtrale. On s'ennuie pas, je crois pas. En tout cas, quand on l'a présenté au Théâtre Orchestre Vienne-Soleure, au Théâtre du Passage à Neuchâtel, au Nuit-Tony à Fribourg et dans d'autres endroits, on a eu vraiment des très très belles réactions. Vraiment, tout le monde est très partant pour cette pièce, parce que cette pièce apprend des choses aux gens qui l'ignorent, et puis elle est faite de telle façon qu'on s'ennuie pas. Et encore une fois, c'est grâce aussi à l'implication des corps de métier. Lumière, son...
Là, il vous posait la question.
Ouais, le son, c'est Graham Broomfield, qui est vraiment un
un as, là, le directeur du théâtre Klaus Benseler, a dit que c'était la meilleure bande-son qu'ils avaient eue depuis la création du théâtre. Ils n'avaient jamais vu ça.
Meilleur que Jim Morrison ?
Bah, Jim Morrison, c'est différent parce que c'était du live. Donc, je pourrais, c'est incomparable. J'ai adoré celle de Jim Morrison. Je pourrais jamais faire de hiérarchie à ce sujet. Mais là, on est dans autre chose. On est vraiment dans, c'est comme de la BD en live. On a des tableaux, on a des transitions.
C'est très visuel.
C'est archi visuel. Avec Graham, on a vraiment, ça fait 20.
C'est comme des scénettes qui se suivent.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ça fait 20-30 ans qu'on travaille ensemble à Graham. Donc, on a vraiment l'habitude de faire des transitions, des cuts, des fondus enchaînés, des vroom, des zing, des tac.
Il y a un rythme à
l'autre. Ouais, c'est bon. Moi, je suis très inspiré du rock progressif. Si vous voyez un peu le plus connu, c'est Pink Floyd The Wall. Bah, on essaye de faire un super The Wall avec des morceaux qui s'enchaînent.
Il y a un côté corrosif des Led Zeppelin.
Ouais, bien sûr, ou du punk, des Stooges. On a toujours le petit côté punk. Alors le pitch, c'est le prétexte pour mettre toutes ces scènes l'une avec l'autre. C'est l'idée. Bah, on est reparti de la visite du musée en fait. Moi, je cherchais, je me disais mais comment.
Qui vous a dépité?
Ouais, le musée, il m'a dépité. Mais après, avec toute la matière que j'ai accumulée, je me suis dit, mais comment je vais raconter cette histoire qui est terrible? Comment surtout je vais mettre ces scènes bout à bout sans que ce soit artificiel et là, du coup, je me suis dit, bah, tiens, j'ai qu'à faire la visite au musée. Et puis, parce que ce qui s'est passé au musée, c'est que quand nous, on est allés, je suis allé avec ma femme et mes enfants, il y a une grande fresque animée qui part depuis un coin d'une paroi et puis qui s'étend sur toute une paroi. Et donc on a d'abord Cortés, enfin les Espagnols très gentils qui arrivent, qui partagent le cacao avec les Aztèques. Et puis après, donc il n'y a pas de massacre, il n'y a aucun problème. Et puis après,
ils font
on voit des marmites bouillonner, ils font de la soupe ensemble, où ils cuisent le cacao, enfin on ne sait pas trop ce qu'ils font. Après, ça part, le cacao part sur des bateaux, arrive en Europe, et puis après, il y a toute cette espèce de fable comme quoi, grâce au génie industriel, ce qui n'est pas une fable absolument fausse, il y a eu des génies industriels qui ont transformé le cacao brut en des produits savoureux, et ça, on en parle aussi. Il y a tout un côté culinaire qui est tout à fait intéressant. Mais bref, il y avait ce côté lacunaire où il y avait zéro noir dans la fresque du musée Lindt. C'est quand même très, très problématique. Et puis, cette fresque qui était projetée, il y avait une porte à un moment dans la paroi. Et ma femme me dit, mais imagine qu'en fait ta pièce, ce soit qu'on ouvre la porte et puis qu'on voit vraiment la réalité derrière. Alors j'ai repris cette idée. Et puis c'est l'idée d'un couple qui veut aller visiter, un papa et sa fille qui veulent aller visiter le musée du chocolat. Et puis ils arrivent en retard et du coup ils vont tomber sur une caissière noire qui va leur dire, mais si vous voulez, j'ai un musée alternatif à vous proposer. Et puis c'est comme ça qu'on va rentrer dans la véritable histoire du chocolat.
Dominique, là on voit bien qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont restées occultées, donc beaucoup de tabous. Dans une précédente, il y a fort longtemps, une précédente interview, vous avez parlé quand vous faisiez dans le nom de Molière, des tabous à l'époque, les dévots, dans le Tartuffe par exemple. Est-ce que là vous avez rencontré des sujets qui restent encore tabouisés à l'heure actuelle? Justement l'éthique peut-être?
Bon, bah, tout ce dont je parle, ça reste toujours très tabou, hein, même s'il y a un réveil comme ça de la conscience et qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont vraiment en ébullition. Ça c'est chouette à voir, hein, de voir beaucoup de jeunes afrodescendants ou de jeunes blancs, les mouvements LGBT, les mouvements trans, les mouvements pour la Palestine. Tous ces mouvements convergent et ont identifié le même ennemi quelque part, hein, le système capitaliste blanc. Et voilà, ça c'est très positif, mais il y a ce backlash terrible de l'ennemi qui a pris conscience du réveil, qui invente des mots valises comme le wokisme, comme l'islamo-gauchisme, cancel culture, ouais, vous l'avez utilisé, moi c'est pas un mot qui me plaît beaucoup.
Non, parce il que, me plaît pas, mais il est utilisé.
Ouais, mais c'est tout ça, c'est du fake, c'est pour délégitimer. C'est de la stratégie, c'est pour délégitimer les mouvements antiracistes et anticoloniaux. L'astuce la plus actuelle, hein, l'incarnation la plus actuelle, c'est des organismes qui font en sorte que l'antisionisme, qui est un positionnement politique partagé par énormément de juifs, j'ai un très bon livre qui s'appelle Antisionisme, l'histoire juive, hein, c'est un positionnement politique qui critique la politique d'apartheid et de génocide de l'État d'Israël. Cette appellation d'antisionisme, aujourd'hui, elle est à deux doigts de passer comme équivalent d'antisémitisme. Alors qu'en fait, tous les gens qui se disent antisionistes, de moi, on est des anti-racistes et des anti-antisémites absolus. Donc, vous voyez...
Même des grands représentants comme Ronnie Bormann.
Après, il y a des grands juifs, des milliers de, et des millions de juifs de par le monde qui sont simplement opposés à ce que l'État d'Israël parle en leur nom et surtout applique face à cette politique ignoble qu'est la leur. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans une zone extrêmement périlleuse, polarisante, polarisée, à la fois porteuse d'espoir par tous les mouvements qui émergent et à la fois porteuse de désespoir par toute l'ultra-droite, mais aussi par des gens de pseudo-gauche qui la rejoignent en partie sur justement tous ces thèmes de racisme, de domination blanche, hein, parce qu'il y a beaucoup de racistes qui s'ignorent, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de racisme structurel aussi. Enfin voilà, je crois que j'ai oublié un peu le début de la question, je me suis un peu enflammé.
Oui, moi aussi, j'ai oublié ce que je vous posais comme question, mais je parlais des sujets qui sont encore tabouisés.
Ah oui, donc voilà, je crois que c'est toujours les mêmes. Hein. C'est vraiment l'affaire de la domination, ni plus ni moins. Et on l'a vu avec le mouvement MeToo, c'est pas gagné. On croyait que c'était gagné, mais pas du tout. Le retour de bâton, hein, la rhétorique aussi antiféministe qui se met en place, c'est exagéré, on peut plus rien dire, etc.
Et puis le mouvement masculiniste qui prend de l'ampleur.
Le mouvement masculiniste qui prend de l'ampleur et qui est exactement, encore une fois, c'est pour ça qu'on parle de convergence des luttes, parce qu'il y a aussi une convergence des oppressions. Ce sont les mêmes les ennemis, ce sont les mêmes les racistes, les machistes, etc., les homophobes, les transphobes.
Des mouvements qui sont quand même souvent liés à l'extrême droite.
Bah pas que, justement. C'est là où je trouve que justement il faut se méfier. C'est trop facile de dire c'est l'UDC, c'est Trump, etc. Une bonne partie de la droite dite humaniste y est, et une bonne partie de la gauche dite humaniste y est aussi. Voir même des gens qui se disent d'extrême gauche et puis qui vont. Moi j'ai eu des discussions avec des gens d'extrême gauche qui disent ouais mais quand même les wokisme, Voilà, il y a beaucoup de gens qui tombent dans les pièges. Après, il faut peut-être pas être trop sévère. C'est compliqué d'arriver à avoir des analyses un peu clair dans ce monde, hein, parce qu'il y a beaucoup de confusion, et le confusionnisme, c'est aussi une arme du système. Donc voilà, nous, pour revenir au théâtre, parce qu'on
va pouvoir...
Et à choc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'éclaircir les faits. Tout ce qu'on raconte, c'est factuel. Moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui, mais sur la base factuelle de ce qui est raconté et de ce qui est vu. Parce que, par exemple, j'ai donné une interview à Public Eye sur ce dont on parle. Public Eye, c'est donc l'ONG dont je vous ai parlé, qui a fait un gros travail sur le chocolat, mais sur tout ce qui est du domaine de l'exploitation du Nord.
Des matières premières.
Ouais, etc. Sous l'interview en ligne que j'ai donnée, il n'y a que du... Il n'y a que du bashing, c'est qu'est-ce qu'il nous dit ce connard, pourquoi il nous parle des noirs, espèce de traître, enfin ouais, toutes les ignominies possibles et imaginables.
Ce qui est facilité avec les réseaux sociaux.
Ouais, les réseaux sociaux, bon, moi je regarde ça en passant parce qu'on peut pas, ça sert à rien d'aller régater, on peut rien faire. Mais voilà, le théâtre justement permet cela, permet de donner à des gens qui ne pensent pas forcément comme nous, qui ignorent des choses, parce que finalement c'est ça l'idée, c'est la transmission, c'est que moi-même j'ignorais la moitié des choses que je raconte dans la pièce. Hein. Voilà, l'idée c'est de partager un savoir de manière ludique, j'insiste toujours, de manière didactique, c'est pas un vilain mot, de manière rythmée, hein, avec les arts du théâtre, avec l'artisanat du jeu, de la lumière, du son, des costumes qui sont très importants, voilà, etc., etc., des accessoires, voilà, de l'administration, tous les corps de métier qui se mettent en branle, dont le théâtre du Grutli qui nous accueille dans le cadre d'une saison décoloniale, ça il faut le préciser, hein. Éric de Vantéry a mis son ouverture de saison, son premier mandat, sous le signe du décolonialisme. Et ça, c'est suffisamment méritoire pour le souligner. Hein. Il appelle cette saison l'arbre à palabre. Donc on est vraiment pile poil dans le cœur du sujet. Et justement, après chaque représentation, on aura un petit arbre à palabre dans le foyer du théâtre où le public est invité à rester, à discuter avec nous, à échanger autour d'une bière ou d'un cacao éthique. Parce que c'est là-dessus que j'aimerais terminer. C'est qu'on peut manger du chocolat en toute bonne conscience parce qu'il y a du chocolat éthique fait directement avec les producteurs. Ça fait aussi partie des zones d'espoir qui émergent dans le monde contemporain. C'est que de plus en plus, il y a des petits producteurs de chocolat, des gens ici qui achètent du chocolat au prix juste aux producteurs en Afrique ou en Amérique latine. Et là, on aura justement Sican de la Jonction, c'est Juan Castillo, il vient d'ouvrir un magasin en bas du boulevard du Pont d'Arves. Et lui, il vient d'un village péruvien, il est péruvien. Il a fait des études de sociologie ici à Genève. Et puis, il a vu l'état de son village qui avait été décimé par Monsanto. Et le village était vraiment dans la misère absolue. Et lui a découvert une recette, un cas, une très vieille recette de fabrication de chocolat. Il a dit aux gens de son village, écoutez, on va cultiver le cacao, cultivez-le, moi je suis à Genève, je transforme le cacao à Genève, je le vends à Genève, et on fait comme ça, et on ressuscite le village. C'est ce qui s'est passé. Vous pouvez acheter ce cacao à la Jonction, à la rue des Deux Ponts, à Sican, et c'est un chocolat qui est non seulement éthique, mais qui est surtout excellent. Et en plus, c'est un chocolat, je dirais, presque culturel, parce que vous avez toute l'histoire des Incas qui est accompagnée de ce chocolat, et donc Juan et sa famille seront là tous les soirs aussi, soit pour vendre, soit pour faire goûter le chocolat, on ne sait pas trop encore quelle forme ça prendra. Mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir ce spectacle, cette saison décoloniale aussi, à des organismes qui auraient des choses à dire sur le racisme, sur le commerce équitable, etc., etc.
Commerce équitable qui devient vraiment maintenant de plus en plus généralisé. On essaie de diminuer les filières d'acheminement et qu'il y ait moins d'intermédiaires, dont Nestlé que vous mentionnez au début d'entretien. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, vous étiez en train de préparer le troisième volume de votre trilogie consacrée aux Helvètes et aux Romains. Où en est le travail ?
Alors c'est le deuxième malheureusement.
Je suis impatiente. Hein.
Non, vous avez raison. Le troisième scénario est en cours, mais le deuxième est toujours en train d'être dessiné. J'ai une malédiction avec cette série, c'est que les dessinateurs sont lents. Donc il y a César qui jette des sorts depuis le.
Vous mettiez au dessin, Dominique.
Depuis le Styx, mais c'est trop. Si vous voyez mes dessins, c'est beaucoup trop nul. Non, je peux pas regarder.
Vous avez une fille qui dessine très bien.
Elle dessine très bien, mais c'est juste un peu tôt encore pour l'exploiter. Donc ça avance lentement, mais sûrement. Je suis content. On est à la moitié du deuxième tome en fait. Donc ça va prendre du temps.
D'où ma confusion de penser au troisième.
Voilà. Et puis par contre, j'ai une autre bande dessinée, mais celle-là, j'aimerais carrément qu'on fasse une autre émission dessus. Donc je vous en reparlerai. Elle va sortir tout bientôt. Et puis surtout, là, ce qu'on peut annoncer aussi, vu qu'on parle de choc.
C'est la reprise de Néolithica.
Ouais, il faut parler de la reprise de Néolithica, mais ça, j'espère qu'on en parlera aussi. Au théâtre Pitof, justement, on va reprendre cette pièce sur l'origine de tous les problèmes dont on parle, du racisme, de la violence, de la domination, de la guerre, du pouvoir. Ah, on a vraiment cherché la
racine. Et la misogynie aussi.
Et la misogynie, justement, j'avais une discussion une fois avec Colin Serrault quand je faisais ma pièce sur Rousseau. Et j'avais lu le contrat social. Et je disais, mais bon, il propose des alternatives et tout ça, mais il propose. L'origine du mal, c'est quoi ? J'avais pas encore lu le discours sur les fondements de l'inégalité, sinon j'aurais eu déjà des indices. Et Colin me dit. Le patriarcat, pour elle c'était net, mais ça c'est une discussion qui date d'il y a 12 ans peut-être. Donc moi j'étais pas encore assez aguerri à ce moment-là, et puis du coup je me suis dit tiens, elle, pour elle c'était clair et net. Et en fouillant justement dans la préhistoire, suite à la commande que m'avait faite Jean Lhermier, directeur du théâtre de Carouge, de faire une pièce sur la préhistoire qui traite justement de notre monde contemporain, de chercher les racines du pouvoir, j'ai remarqué que c'est effectivement le patriarcat, la racine du mal. Alors tout ça est très bien expliqué, et surtout très bien joué et très bien défendu dans Néolithica, qui a été joué dans toutes les communes genevoises grâce au théâtre, camion théâtre du théâtre de Carouge, qui est une idée originale de Jean Lhermier, mais que moi j'ai mis en scène, que j'ai cherché, j'ai fait moi la pièce.
Pièce itinérante pour aller itinérante, vers les gens, voilà. Peut-être peu accoutumés au théâtre.
Voilà, c'est ça. Et donc on a fait la version itinérante, mais moi à la fin de cette version-là, j'étais frustré, je me disais il faut qu'on la fasse au cœur de la ville maintenant. Et donc par chance, on a réussi à la faire on va la monter à Pitof.
Très belle salle.
Ouais, très belle salle. Donc je suis très impatient aussi de pouvoir faire cette catharsis à Pitof. Mais ce que je voulais vous raconter une dernière fois, dernière chose, c'est que là, je travaille sur justement la compilation de ces textes dont on parle. Choc, Néolithica, la pièce sur Jim Morrison, Les Helvètes. Et tout ça va faire le tome 3 de mon théâtre complet qui sera aux éditions Statkin, qui devrait paraître aussi au mois d'octobre. Voilà, Néolithica sera au mois d'octobre à Pitof. Et il y aura aussi ce tome-là de mes dernières pièces qui sont regroupées en un tome 3, parce qu'il y a un premier tome chez Campiche, deuxième tome chez Statkin et un troisième toujours chez Statkin.
Bravo Dominique, vous êtes toujours aussi hyper actif. Je ne sais pas comment vous faites. Le chocolat sec tous les matins ?
Le chocolat éthique sec. Le chocolat de chez Sican, c'est la Honda Latina de los Incas.
Merci beaucoup Dominique et bon succès. Vous êtes en pleine répétition.
Voilà, on commence les répétitions là lundi de la reprise de Choc.
Et on se réjouit
du 6 au 18 mai, on se réjouit vraiment d'accueillir le public et puis d'avoir
surtout d'avoir des
grands échanges. Et à l'entracte en plus, il y aura des possibilités justement de goûter ce chocolat éthique et déjà d'avoir une première approche sympathique des échanges cordiaux autour du thème du chocolat.
Alors au plaisir de vous retrouver pour un prochain projet, Dominique. Merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous.